Chapitre 4. Plus tard, Juliette n'oublierait jamais son premier voyage à Saoumbona. Ils montèrent dans une vieille jeep cabossée et prirent la route de la côte à la sortie du cap, découvrant une série de criques et de baies d'une beauté inouïe. La mer brillait d'un bleu profond mis en valeur par un ciel limpide. Ils longèrent des plages entièrement sauvages où bondissaient les embruns, au-dessus desquels dévalaient des forêts. Ils aperçurent des colonies de manchots et de phoques. Le tout formait un paysage extraordinaire, surplombé par les falaises gris-mauves d'une montagne au sommet plat, que l'on appelait, pour des raisons évidentes, la montagne de la table. Au bout d'une heure de route environ, ils quittèrent la côte pour entrer dans les terres, et Juliette fut étonnée de voir à quelle vitesse le paysage changeait, abandonnant des plantes qui ressemblaient à de la bruyère pour un type de végétation africaine plus proche de ce qu'elle avait vu en photo. Des arbres épineux aux couleurs passées et des arbustes maigrelets ponctuaient une immense formation herbacée dont les tons jaunes brillaient sous le soleil, comme si le paysage était éclairé par en dessous. La route déserte se déployait devant eux à l'infini. Elle baissa la vitre et fut saisie par l'odeur d'animaux et de poussière caractéristique du bush. Tendai ne cessait de lui parler de Saoumbona et de lui expliquer tout ce en quoi consistait son boulot de traqueur. Le nom de la réserve était une formule d'accueil en langue zoulou, lui expliqua-t-il, et lui-même était de la tribu des Zoulous. Saoumbona n'était pas seulement une réserve animalière, mais un véritable conservatoire d'espèces sauvages. Et sa mission consistait à surveiller l'évolution de chaque animal dans ce parc naturel. Environ un quart des animaux étaient nés sur place, le reste étaient ceux qu'ils avaient sauvés. Certains provenaient de régions victimes de la sécheresse ou de réserves et de zoos qui avaient fermé. D'autres leur avaient été amenés parce qu'ils étaient blessés ou parce qu'ils avaient perdu leurs parents ou leurs petits lors de chasses sanglantes.
« En 20 ans, je n'ai jamais vu Henri Thomas, votre grand-père, refuser un animal. Pas un seul. »
C'était la première fois que quelqu'un mentionnait son grand-père devant elle, et Juliette était toute oui. Mais la phrase que Tendai prononça immédiatement après la prit au dépourvu.
« J'étais vraiment désolée de ne pas être là pour le veiller le soir où il est mort. »
Juliette, dont la tête tournait déjà à cause du décalage horaire et de la faim qui lui tiraillait le ventre, la sentit tournoyer plus vite encore. De toute évidence, Tendai ne se doutait pas une seconde qu'elle ne savait pas qu'elle avait un grand-père, et encore moins qu'il était mort.
« Ça ne vous dérangerait pas de me raconter ce qu'il s'est passé ? » demanda-t-elle prudemment.
« Yebo ! Je peux essayer !»
répondit Tendai, dont les mains agrippèrent soudain le volant. Elle eut la surprise de découvrir que 2 années avaient passé depuis la mort de son grand-père, mais les circonstances dans lesquelles elle était survenue étaient encore mystérieuses. La police défendait l'idée que Henri était tombé sur une bande de braconniers qui cherchaient à voler des girafes, voire à les tuer pour en faire des trophées. L'incident avait eu lieu un week-end. Tendai était parti dans le nord du pays pour rendre visite à sa famille. C'était donc un moment où Saoumbona était particulièrement vulnérable.
Les hommes s'étaient bagarrés.
Henri avait fini mortellement blessé, et l'une des girafes avait été laissée pour morte.
Il n'y avait pas de téléphone dans le village où j'étais, poursuivit Tendai. Si bien que je n'ai rien su de tout ce drame avant de rentrer le lundi. Mais c'était trop tard. En été, de nombreux Zoulous implorent la reine de la pluie pour qu'elle bénisse leurs champs. Et cette semaine-là, leurs prières ont été plus qu'exaucées. Pendant 2 jours, des tempêtes continues ont dévasté les sentiers de la réserve que la police avait sillonnés. Le 3e jour, quand je suis arrivé, il ne restait plus la moindre trace de qui que ce soit.
Aucun des braconniers n'avait jamais été arrêté. Aujourd'hui encore, personne ne savait vraiment si Henri avait été assassiné ou tué accidentellement au cours de la bagarre. Plus étrange encore,
Les braconniers étaient repartis en abandonnant la girafe pour laquelle ils étaient manifestement venus. Nul ne comprenait pourquoi. « La police a-t-elle quand même trouvé les indices ?» demanda Juliette. L'histoire de son grand-père la désolait, et elle était troublée de savoir que des tueurs se promenaient en liberté là où elle devait s'installer.
« Peuh ! Ces babouins ! Ne vous inquiétez pas ! Même les araignées laissent une trace. Ça prendra peut-être des années, mais on finira par retrouver les coupables. Ou l'inverse. Si nous sommes suffisamment patients, c'est peut-être eux qui nous retrouveront. »
Le visage de Tendai s'était assombri au fil de la conversation, jusqu'au moment où il secoua légèrement la tête, comme si tout à coup il se rappelait que Juliette et lui se connaissaient à peine, et qu'il en avait peut-être trop dit. Il sourit de son extraordinaire sourire.
« Votre grand-père avait une âme de guerrier. C'était le meilleur directeur de réserve, numéro un sans conteste. »
Juliette était très émue par l'histoire de ce grand-père qu'elle n'avait jamais connu. Elle se dit que c'était sûrement un homme bon. Celui qui l'avait remplacé était un jeune homme qui s'appelait Alex Dupreez. Mais à entendre la façon dont Tendai prononça son nom, elle devina que M. Dupreez ne faisait pas partie du hit-parade de ses personnes préférées. Ils traversèrent un village de huttes, couvertes de chaumes et de maisons éparses avec des cours où poussaient des tournesols et du maïs. Plus loin, des enfants jouaient au football dans un champ. Peu à peu, la jeep ralentit, et Tendai bifurqua pour prendre une allée bordée de bananiers aux immenses feuilles. Au bout, apparut une maison vert pâle avec un toit de tôle ondulé. Un vieux panneau Coca-Cola écaillé était appuyé contre un mur, et trois poules sortirent de la maison par la porte principale. Juliette descendit de la jeep. « C'est la maison de ma grand-mère ? » demanda-t-elle, incapable de cacher sa surprise. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais certainement pas ça.
« Non, ma fille, Tendai t'a amenée ici pour que tu me voies. »
Juliette se tourna et découvrit la plus grosse femme qu'elle ait jamais vue, qui avançait vers elle à pas lourds à travers la pelouse pelée. Elle portait un pagne africain traditionnel aux couleurs chatoyantes, avec un turban assorti jaune banane, rouge comme le désert du Kalahari et citron vert.
« Je lui avais dit que tu aurais faim, » ajouta la femme d'une voix douce comme de la crème fraîche. « Et je vois que j'avais raison. Regarde-moi, ma pauvre enfant, tu n'as que la peau sur les os. Mademoiselle Juliette, je vous présente ma tante, Mademoiselle Grace, » intervient Tendai avec une évidente fierté. « La meilleure cuisinière du monde. »
Et tous deux suivirent Grace à l'intérieur de la petite bicoque verte. Juliette se dit que sa grand-mère ne devait pas être au courant de cet arrêt improvisé. Mais elle avait trop faim pour réfléchir à la question. Des parfums exquis se dégageaient de la cuisine de Grace. Ils s'installèrent confortablement sur des chaises de bois artisanales au milieu de la pièce principale, simple mais impeccable. Il n'y avait qu'une natte en fibre naturelle au sol et un vieux calendrier au mur, illustré par la photo d'une île tropicale. Quelques instants plus tard, Grace revint de la cuisine avec deux immenses assiettes. Elle leur avait préparé une omelette à base d'œufs de la ferme avec des champignons sauvages, une montagne de bacon frit et des tomates grillées au sucre roux. Juliette, qui avait l'impression de n'avoir rien mangé depuis une éternité, savoura son petit déjeuner en silence. Elle approuvait sans réserve le jugement de Tendai. Grace était la meilleure cuisinière du monde. Juliette se tourna vers elle pour la remercier et vit que la femme l'observait intensément. « Cet enfant ressemble à Véronica, » dit Grace en s'adressant à Tendai. Juliette sursauta comme si elle venait de se brûler. « Vous connaissiez maman ?»«
Tantine !» s'écria Tendai en bondissant sur ses pieds. « Tu m'avais promis de ne rien dire !»«
Du calme, mon garçon, il y a trop de secrets à Sawumbona. Elle a le droit de connaître la vérité.
« Quelle vérité ?» demanda Juliette.
« Mademoiselle Juliette, » dit Tendai, « je suis désolé, il faut que nous y allions.
Mais,
s'il vous plaît. »
Juliette regarda successivement Grace et Tendai, la tête fourmillant de questions qu'il était clair qu'elle n'aurait pas le droit de poser. Puis elle se leva pour suivre Tendai. Brusquement, Grace saisit son bras.
« Attends !»
murmura-t-elle. Elle posa la main sur le front de Juliette, qui sentit une décharge d'électricité traverser tout son corps. Les yeux de Grace s'agrandirent.
« Tu possèdes le don, mon enfant, comme disaient nos ancêtres. »«
Quel don ?» demanda Juliette, murmurant elle aussi.
« Fais très attention !» se contenta de répondre Grace. « Le don peut être une bénédiction autant qu'une malédiction. Tâche de prendre des décisions sages. »